Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 6h sur Europe 1, l'heure d'un premier journal.
Il ne peut pas y avoir cette séparation qui est prônée, cette guerre des religions qui est dite. Nous, en tant que Français, en tant que musulmans vivant dans ce pays, nous disons non.
À Nice, les musulmans appellent à la fraternité, à la paix. 48 heures après l'attentat qui a fait 3 morts à la basilique Notre-Dame, le terroriste est toujours hospitalisé. 2 personnes ont été interpellées.
Pour freiner l'épidémie de Covid, le confinement s'applique depuis hier dans le pays. Mais une fronde commence à gagner les petits commerçants. Certains refusent de baisser le rideau. Ils sont appuyés par leur maire.
Les déplacements désormais sont interdits, mais une tolérance sera accordée jusqu'à demain soir pour rentrer de vacances. Certains en profitent pour aller se mettre au vert. Jusqu'en décembre, vous les entendrez.
Et puis pas de déguisement, pas de bonbons ce soir. Halloween, c'est annulé, mais on vous donne tout de même de quoi frissonner à la maison.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a le choc, la sidération, puis le temps du recueillement. À Nice, les hommages se sont multipliés après l'attentat qui a fait 3 morts jeudi matin.
2 femmes qui venaient prier dans la basilique Notre-Dame et 1 homme, le sacristain de l'église, ont été assassinés par un terroriste qui visait clairement la communauté catholique. Un nouveau drame dans une ville déjà meurtrie par l'attentat du 14 juillet 2016. Reportage à Nice de Frédéric Michel.
Encore combien de minutes de silence, combien de fleurs, de bougies, combien encore de vies brisées et quel avenir. 2 jours après une nouvelle attaque dans leur ville, les Niçois ont bien du mal à retrouver leur vie d'avant.
Franchement, il y en a marre.
C'est de la tristesse, on a peur.
On va finir par regarder derrière soi.
Si on monte des communautés contre les autres, ça ne s'arrangera pas non plus. Hein.
Bien sûr, c'est pas la solution.
La crainte, c'est la division, l'escalade. Martine Waknin est en charge de la maison d'accueil des victimes à Nice.
Nous voulons vivre avec le sentiment que nous sommes en sécurité. Alors peut-être qu'il faudra que les accès dans les lieux de culte soient plus sécurisés. Je sais que dans les synagogues à Nice, il y a des accès avec des caméras. Peut-être que malheureusement, nous serons contraints d'y parvenir.
S'adapter à la menace, mais aussi la dénoncer, la combattre. Boubacar Bekri est le recteur d'une mosquée à l'Ariane, un quartier populaire de Nice.
Il faut absolument que les musulmans prennent la parole. Il ne peut pas y avoir cette séparation qui est prônée, cette guerre des religions qui est dite. Nous, en tant que Français, en tant que musulmans vivant dans ce pays, nous disons non.
Et sur les marches de la basilique, côte à côte, les représentants de tous les cultes ont affiché leur union.
Reportage à Nice de notre correspondant Frédéric Michel.
Émotion à Nice, émotion notamment pour ceux qui ont déjà vécu l'attentat de 2016 du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Jean-Claude Hubler, le président de l'association Life for Nice, est avec nous à 7h40. S'agissant de l'enquête, une 2e personne a été interpellée hier soir et placée en garde à vue.
2 personnes qui ont été vues en train de discuter avec le terroriste. Les enquêteurs vont tenter de savoir s'il s'agit ou non de complices. L'auteur de l'attaque, lui, est toujours hospitalisé. On commence à remonter peu à peu son parcours. Justin Morin, cet homme serait donc arrivé en France juste avant de passer à l'acte.
Oui, c'est un Tunisien âgé de 21 ans qui a quitté son pays il y a 1 mois et demi pour trouver du travail en France, prétend son frère. Avec sa mère, ils ont donné une interview chez eux, à Sfax, ville de la côte ouest de la Tunisie. L'assaillant est issu d'une famille modeste de 11 enfants. Concernant son rapport à la religion, sa mère raconte qu'il s'est mis à faire la prière il y a 2 ans et demi, qu'il ne sortait pas, ne communiquait pas vraiment avec les autres. Avant cela, il était aussi connu de la justice tunisienne pour des faits de violence et de drogue. Sa famille affirme aussi qu'il est bien arrivé en France la veille de l'attentat. Son frère et sa mère l'ont eu au téléphone à ce moment-là. Le suspect leur annonce alors qu'il est bien arrivé sur le territoire français après un passage par l'Italie. Mais ensuite, quels étaient ses plans? Avait-il déjà l'intention de se rendre à Nice et de commettre un attentat? Les enquêteurs attendent toujours de pouvoir interroger l'assaillant. Blessé par balle, il est toujours hospitalisé dans un état grave. En attendant, les 2 téléphones retrouvés dans son sac sont en train d'être exploités par les enquêteurs pour savoir s'il agit seul ou avec des complices.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Hier, l'exécutif a décidé de renforcer la sécurité dans le pays. L'opération Sentinelle va passer dans les jours qui viennent de 3 000 à 7 000 hommes.
6h04, c'est l'autre titre de l'actualité. Ce confinement numéro 2 qui est donc entré en vigueur hier dans tout le pays.
Seule solution pour freiner l'épidémie. Hier encore, près de 50 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Nouveau confinement donc aménagé. Toutefois, par rapport au mois de mars, les écoles sont ouvertes. Le travail doit continuer. En revanche, les commerces non essentiels doivent baisser le rideau.
Et ça ne plaît pas du tout à certains maires qui ont décidé de contester cet ordre. À Barneville-Carteret, dans la Manche, par exemple, le maire David Le Gouet vient de prendre un arrêté pour autoriser les commerces à ouvrir.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est l'équité, puisque si on prend les grandes surfaces qui ont le droit de vendre des produits alimentaires et non alimentaires, nous, on constate qu'il y a un trou dans la raquette. Par exemple, le fleuriste, un coup lundi, il n'a plus le droit de vendre de fleurs, et on pourra en acheter dans les grandes surfaces. Là, on a l'impression que le bouc émissaire, ce sont les commerçants. C'est eux qui payent un lourd tribut. Quand on a des petites surfaces, ils ont une, deux ou trois personnes dans le magasin. Donc, les gestes barrières sont maîtrisés. Et donc, on ne peut pas m'expliquer que dans la petite boutique, ils gèrent moins bien les gestes barrières qu'une grande surface. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui nous émeut. C'est ça qui nous interpelle.
David Le Gouet, maire de Barneville-Carteret dans la Manche, symbole de cette fronde. Il y a les libraires qui ont reçu l'ordre de fermer et qui ont vu dans le même temps les FNAC et les grandes surfaces continuer à vendre des livres. Ces indépendants ont finalement été entendus. Le sujet a fait l'objet d'une réunion à Bercy. Emmanuel Dutheil.
La crise sanitaire est telle qu'il n'est pas question d'ouvrir les magasins non essentiels. Le message du ministère de l'économie est très clair et les décisions donc radicales. Pas question d'ouvrir les librairies. Et donc à ce titre, la FNAC et la grande distribution doivent fermer leur rayon culture. C'est une question d'équité, estime soulagé sur Europe 1 le PDG du groupe Le Furet du Nord de Sitre. Un point sanitaire sera fait d'ici 15 jours pour voir si à ce moment-là il est possible de faire évoluer la situation. La FNAC en revanche est loin d'avoir perdu totalement son bras de fer. Tous ces autres rayons vont rester ouverts, ce qui n'était pas le cas lors du précédent confinement. Et ce n'est pas le seul acteur à le faire. Boulanger a aussi décidé de garder ses magasins ouverts. Comme c'est autorisé de vendre ou de réparer des ordinateurs, des téléphones, bref, tout ce qui sert pour le télétravail, il rentre dans les clous. Et surtout, il ne laisse pas le champ libre à Amazon qui, lui, va continuer de tout vendre et notamment des livres. Un moindre mal, estime-t-on, à la FNAC.
Emmanuel Dutheil, on apprend que les magasins de jouets, eux aussi, se mobilisent. Ils ont décidé de déposer un référé devant le Conseil d'État. Ils s'estiment lésés car les grandes surfaces qui sont ouvertes, elles, ont le droit de vendre des jeux pour enfants.
Ouais, et cette colère des petits commerçants qui commencent à gagner du terrain, Amazon qui fait une braderie avant la braderie du Black Friday, la fermeture de la FNAC des rayons culturels, tout ça, on en parle à 8h15 avec la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.
Autre secteur fortement touché par ce reconfinement, c'est bien sûr l'aérien. On le sait, tous les voyages, à l'exception des voyages professionnels et d'éventuels rapatriements, tous les voyages sont interdits. Les aéroports déjà désertés vont le rester. Les compagnies serrent les dents. Écoutez la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille.
On a 70% de chiffre d'affaires en moins. Donc clairement, on a un plan de transformation qui vise à faire baisser nos coûts. Alors nous n'arrivons pas à faire baisser nos coûts à la hauteur des baisses de revenus. Nous perdons environ 10 millions d'euros de cash par jour, de trésorerie par jour. Et l'enjeu, c'est évidemment de réduire au maximum ces pertes de trésorerie.
Donc peut-être une recapitalisation, une montée au capital de la part de l'État. Parce que vous avez déjà obtenu, je crois, 7 milliards de prêts de la part du gouvernement français.
7 milliards d'euros de prêts obtenus au printemps.
Mais l'argent va manquer
très
rapidement.
Mais à un moment, effectivement... C'est surtout que notre structure de bilan est tellement affaiblie qu'il faut effectivement injecter des capitaux. C'est la décision des actionnaires de référence, que sont l'État français et l'État néerlandais. Mais nous aurons besoin d'une recapitalisation.
Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, qui était l'invitée de Julien Bugier hier soir sur Europe 1.
Et les voyages sont désormais donc interdits, mais le gouvernement a promis une tolérance jusqu'à dimanche.
Afin de permettre à tous les vacanciers de la Toussaint de rentrer chez eux et de se confiner à domicile. Une tolérance qui permet également à certains de faire l'inverse, de quitter Paris et les grandes villes pour aller passer les prochaines semaines au vert.
Mais selon nos informations, 50 000 billets TGV ont été vendus jeudi. Des voyageurs de dernière minute qu'a rencontré Jean-Jacques Herry à la gare de Lyon à Paris.
Avant de quitter la capitale, il y a ceux qui, comme Florian, attendaient d'en savoir plus sur leur organisation professionnelle. Mais le gouvernement est allé trop vite pour son entreprise, dont la réponse est tombée seulement hier matin, après le début du confinement.
On a annoncé qu'on passerait à 100% en télétravail.
Dans ces conditions, la jeune femme ne se voyait pas rester à Paris.
Je me suis dit que j'allais prendre le maximum d'affaires et je rentre chez mes parents. Pour tout le mois de novembre et jusqu'à nouvel ordre pour décembre, on sait que ça s'annonce pas très bien.
Un peu plus loin, Yannick et Julie, étudiants, arpentent le hall de la gare avec quatre énormes valises et leur petit char. Avant de monter dans leur TGV pour Aix-en-Provence, ils espèrent que le flottement et la tolérance des premiers jours de confinement leur évitera l'amende.
On s'est dit qu'on prenait le risque aussi.
On a la chance d'avoir nos parents à Aix, donc en fait on est étudiant et on est domicilié et à Aix et à Paris, donc on va jouer sur ça.
Ouais, c'est ça.
Cette fois-ci, on reste pas bloqué 3 mois dans un petit appartement et on rentre.
Sur les quais, on croise aussi ceux qui étaient en vacances ou en séjour à Paris. Tous ont le même discours, il n'y a plus rien à faire ici, alors on a préféré avancer notre départ.
Un reportage de Jean-Jacques Herry, gare de Lyon à Paris. Sachez à l'étranger que la Belgique a décidé de renforcer les mesures de confinement. Les commerces non essentiels vont fermer, le télétravail devient obligatoire. Outre-Atlantique, le Canada a décidé de fermer ses frontières jusqu'à la fin novembre. Frontières fermées notamment donc avec les États-Unis qui eux ont enregistré un nouveau record hier. Plus de 94 000 cas en 24 heures.
Direction la Turquie maintenant. Marguerite Lefebvre, où les secours ce matin reprennent les recherches pour tenter de trouver des survivants.
Au lendemain du séisme qui a fait au moins 26 morts dans la région d'Izmir, séisme en pleine mer Égée qui a touché également les îles grecques voisines, le bilan est encore très provisoire. Les dégâts sur place sont considérables. Précision d'Hélène Terzian.
De gigantesques nuages de poussière qui s'élèvent vers le ciel, ils s'échappent d'immeubles effondrés comme des châteaux de cartes. À Izmir, troisième ville turque et sa province, 17 immeubles se sont écroulés. Ce jeune homme était en train de jouer en ligne sur son ordinateur lorsque la terre a tremblé. La vidéo enregistrée par sa webcam et partagée sur les réseaux sociaux témoigne de la violence de la secousse. Depuis, c'est une course contre la montre qui est engagée. Des grues soulèvent parfois des pans de murs pour tenter de sortir les survivants des décombres. À une vingtaine de kilomètres au sud d'Izmir, Hamza était chez lui au moment du séisme.
Tout bascule, la vitrine qui est tombée, les murs, les portes, tout est basculé. C'est affreux.
Le séisme a frappé si fort qu'il a provoqué un mini tsunami sur la côte turque à 50 kilomètres d'Izmir et à Samos, en Grèce. Sur l'île, l'écroulement d'un mur a tué deux adolescents. Des secousses ont été ressenties jusqu'à Istanbul et Athènes, la Turquie et la Grèce qui ont mis de côté leurs vives tensions diplomatiques. Les deux pays se sont engagés à s'entraider en cas de besoin.
Hélène Terzian. Et puis en cette période de confinement en Europe, on parle surtout des projets qui s'arrêtent, des projets mis sur pause. Eh bien à Berlin, c'est une inauguration que l'on va fêter aujourd'hui. Après des années de report des couacs en cascade, le nouvel aéroport de la capitale allemande va ouvrir en pleine pandémie. Donc à Berlin, Hélène Kohl.
Ils auraient dû être 10 000. C'était le nombre d'invitations envoyées pour la fête du 3 juin 2012. Finalement, l'inauguration de l'aéroport Willy Brandt se fera tout à l'heure devant 50 personnes. La faute au virus qui permet aussi aux Allemands de ne pas mettre sous les projecteurs ce qui est sans doute le plus grand fiasco industriel des 30 dernières années ici. À l'origine, c'est un banal problème d'aération qui a repoussé l'ouverture pour quelques mois seulement, pensait-on. Mais en 8 ans et demi, les ingénieurs ont finalement dénombré pas moins de 550 000 anomalies techniques. Le temps de tout vérifier, de tout réparer, la facture s'est alourdie de 6 milliards d'euros car dans l'intervalle, il fallait faire fonctionner pour de faux un grand nombre d'infrastructures de l'aéroport. Par exemple, tirer les chasses d'eau tous les jours pour ne pas que les canalisations ne se bouchent et même faire circuler des trains entre les terminaux pour ne pas que les rails ne rouillent. Des trains fantômes qui vont, ironie de l'histoire, enfin recevoir des voyageurs en ce jour d'Halloween. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
En sport, on suivra ce soir le 15 de France, dernier match du tournoi à destination. Les Bleus affrontent l'Irlande. Ils ont encore une chance de gagner le tournoi, mais il faudra regarder dans le même temps le match entre l'Angleterre et l'Italie.
Enfin, vous ne serez pas effrayés ce soir par des enfants déguisés en zombies. Covid oblige, la chasse aux bonbons n'aura pas lieu.
Halloween n'aura pas lieu cette année, mais en plein confinement, voilà de quoi frissonner un peu. Clément Le Saffre a pensé à vous avec une série de jeux vidéo.
Pour les petits et les grands enfants, l'indispensable d'Halloween, c'est Luigi's Mansion 3, une aventure gentiment effrayante dans laquelle on incarne Luigi, le frère froussard de Mario, chargé de sauver ses amis capturés par des fantômes plutôt rigolos dans un hôtel hanté. Malin et convivial, Luigi's Mansion 3 est un jeu dans la plus pure tradition de Nintendo. Mais si vous voulez vous faire vraiment peur, optez plutôt pour Little Nightmares. Dans ce jeu, il faut aider Six, une petite fille de 9 ans, à s'échapper d'un bateau occupé par des êtres humains monstrueux. Ici, pas de combat, il faut se cacher sous les tables, rester tapis dans l'ombre et se déplacer au bon moment, de quoi profiter de l'ambiance et de l'univers mystérieux de ce jeu, qui n'est pas sans rappeler les films de Tim Burton. Et justement, que serait Halloween sans un bon film d'horreur? Le jeu Little Hope s'inspire des codes du genre avec une bonne vieille histoire de malédiction. 5 amis se retrouvent piégés dans une ville où, 3 siècles plus tôt, a eu lieu une chasse aux sorcières.
La véritable question était de savoir si les accusés s'étaient vraiment accoquinés avec le diable ou si leurs accusateurs étaient eux-mêmes manipulés par une présence malfaisante.
L'objectif de Little Hope est simple, hein, survivre à tout prix en faisant les bons choix. Très cinématographique, le jeu prend aux tripes. Mais attention, c'est vraiment réaliste, âme sensible, s'abstenir.
Clément Le Saffre, qui veut donc vraiment nous empêcher de dormir.
Le jeu prend aux tripes. Vous allez avoir peur.
Bon, allez, je me calme. Merci Marguerite Lefebvre, à tout à l'heure pour le journal de 7h.